Une heure en France. Frédéric Le Ternier, Denis Farroux sur France Bleu.
Il y a 60 ans, la culture trouvait son ministère et André Malraux devenait son ministre, le ministre d'État chargé des affaires culturelles, nommé par Charles de Gaulle. On voulait donc revenir sur le destin de cet homme à la fois écrivain, résistant, théoricien des arts et homme politique donc.
André Malraux, c'était aussi une voix. Voici le ministre de la Culture, c'était lors de l'inauguration de la Maison de la Culture de Bourges en 1965.
En face de ces puissances, on a compris qu'il n'y a qu'une seule autre puissance. En face de la mort, il n'y a que ce qui résiste à la mort. En face des puissances de la nuit, il n'y a que l'immortalité.
Et nous sommes ce midi avec le vice-président de l'Association des Amitiés Internationales, André Malraux. Bonjour Jean-René Bourrel.
Bonjour.
Commençons par le commencement. André Malraux est né à Paris en 1901. Quelle était sa famille ?
Ah, il avait une famille qui était d'origine italienne, du côté de sa mère. Mais très vite, ses parents se sont séparés et il a été élevé par sa grand-mère, sa tante et sa mère, donc trois femmes, à Bondy, dans la banlieue parisienne. Et il y a eu un clivage ainsi fortement marqué entre l'environnement féminin et le père, qui lui était resté à Paris, avec une relation à son père qui était une relation idéalisée. Il voyait dans le père, lui qui était entouré de femmes, l'homme, comme on l'imaginait autrefois, un peu héros et en même temps aussi brillant sur tous les sujets qu'il entreprenait. Ce qui n'était pas vraiment le cas du père de Malraux, mais c'est ainsi que Malraux
le voyait.
Le voyait.
Le ministère de la Culture a été un peu créé autour d'André Malraux. On se rappelle de la phrase qu'on attribue à De Gaulle, « Tailler pour lui un ministère ». C'est ce qu'il disait à Michel Debré. S'il n'y avait pas eu Malraux dans le paysage, si j'ose dire, il n'y aurait peut-être pas eu de ministère de la Culture, ou alors il serait arrivé un petit peu plus tard.
Oh ben je pense en effet qu'il faut reconnaître à Malraux, rendre à Malraux ce qui appartient à Malraux, le ministère de la Culture et sa création. Alors vous avez, vous rappelez là la phrase de Gaulle à Debré, et puis de Gaulle ajoutait aussi, prenez-le à la culture, il donnera du lustre à votre gouvernement. Alors en effet, Malraux, il fallait le caser. Il avait rêvé lui-même d'autres portefeuilles, il avait même envisagé l'intérieur. On l'imagine mal dans cette fonction. Il avait rêvé aussi à un moment de l'éducation nationale, où il entendait introduire ce qu'on appelle aujourd'hui les technologies éducatives modernes. Mais il avait été reconduit en 1958 au retour de De Gaulle aux affaires, dans les fonctions du ministre de l'Information, fonctions qui avaient été les siennes en 1945 et de 1946, mais il avait fallu lui tailler un ministère sur mesure, et rien ne pouvait mieux lui convenir que ce ministère des Affaires culturelles, qu'il occupe en janvier, le 8 janvier 59 exactement, mais dont le décret constitutif ne paraîtra qu'au journal officiel en juillet suivant. Et c'est le décret du journal officiel qui précise les missions et qui trace en quelque sorte la zone d'exercice et de compétences du ministère et de Malraux.
Jean-René Bourrel, pourquoi vous dites qu'il fallait le caser? C'était quoi le contexte à ce moment-là?
Ben, le contexte était que Malraux est un personnage qui entendait être le conseiller du général. Il était, par rapport à ses collègues ministres, il n'était pas forcément apprécié, pour ne pas dire qu'il avait de sérieuses inimitiés au sein même du gouvernement. C'est un personnage qui vient, comme on dirait aujourd'hui, de la société civile. Il n'est pas passé par les voies politiques, et il est très proche de De Gaulle, donc ça suscite évidemment beaucoup de jalousie et d'inimitié, à commencer d'ailleurs par Michel Debré. Michel Debré ne l'aime guère, et cela apparaîtra un petit peu par la suite, notamment au moment de la guerre d'Algérie, avec le manifeste des 121, que Florence Malraux avait signé, et ça avait valu à Malraux d'être tensé par le Premier ministre, et Malraux lui avait répondu assez sèchement. Les relations étaient un peu difficiles, mais c'est le cas aussi de Couve de Murville, et surtout, Malraux aura, par exemple, toujours, comme ennemi juré au sein du gouvernement, Valéry Giscard d'Estaing. Les relations entre deux sont très mauvaises.
Mais qu'est-ce que représente...
Donc, il fallait caser Malraux, et Malraux était peu casable au départ, si je puis dire, et le poste qu'on lui trouve lui convient évidemment très bien.
Qu'est-ce que représente Malraux aujourd'hui, plus de 30 ans après sa mort, pour vous, l'association des Amitiés internationales André Malraux?
Ben, c'est un peu un combat à mener et à continuer chaque jour un peu plus, parce que, sous des effets de mode un peu paradoxaux, il souffre d'une image dégradée. On retient de lui un petit peu dans les médias, par exemple, l'image du voleur de statues au Cambodge. On retient de lui le ministre grandiloquent. Alors souvent, on écarte d'un revers de la main Malraux parce que le lyrisme qui était le sien, et vous avez tout à l'heure donné un extrait de son discours à Bourges, est un lyrisme et un art oratoire qui est passé de mode, c'est vrai.
C'est vrai.
Donc il est, et aussi pour beaucoup, le fait qu'il soit entré au Panthéon, là, paradoxalement, frappé d'obsolescence. Quoi. Il fait partie des gloires de la République, et au fond, on ne va plus les visiter, ces gloires. Autrement dit, le message de Malraux, ce que Malraux a fait, ce qu'il a porté, ce qu'il nous a apporté, est aujourd'hui un gommé et oublié. Et l'association comme la nôtre, Amitié internationale André Malraux, se propose justement de le réactualiser, de le réintroduire dans notre modernité, car il y a souvent lieu de le faire.
Mais il a toujours divisé André Malraux, ça date pas d'aujourd'hui.
Oui, sans doute, oui. Mais je pense que c'est Paul Valéry qui disait qu'il n'y avait pas de plus grande gloire que d'exciter la contradiction. Donc Malraux excite toujours la contradiction, et c'est très bien. Mais il s'agit de temps à autre, malgré tout, de le restituer dans ce qu'il a pu faire de positif. Mm-hmm. Et ne pas rester dans des polémiques post-mortem qui n'apportent rien. Ouais. Alors oui, il a toujours divisé, mais malgré tout, si on fait le bilan de ce que l'on a appelé les 10 ans de règne sur la culture, puisqu'il a été un ministre de longue durée.
Oui.
Sans doute le bilan est contrasté, mais il est quand même très positif.
Et on aurait des milliers de choses à dire. On n'a pas parlé de son prix Goncourt, de son amour pour les voyages. Mais bon, on va continuer à parler de lui dans Une Heure en France avec cette vente aux enchères qui est organisée demain à Paris. Mais on a déjà eu le volet politique avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-René Bourrel.
C'est moi qui vous remercie.
France Bleu, Une Heure en France.
Et oui, nous parlons maintenant de cette vente aux enchères qui a lieu demain par la maison Arcurial à Paris. Il s'agit d'une collection inédite, Denis.
Oui, une collection avec de nombreuses œuvres de ses amis artistes à Malraux et quelques dessins d'André Malraux aussi.
Donc on visite avec le commissaire priseur d'Arcurial en charge de la vente. Bonjour Stéphane Aubert.
Bonjour.
Cette vente, c'est le musée intime finalement d'André Malraux. C'est aussi une véritable invitation au voyage.
Complètement. Ce sont tous les objets, toutes les œuvres qui se trouvaient dans le bureau d'André Malraux, à Verrières-le-Buisson, qui a été sa dernière résidence, dans laquelle il vivait avec sa compagne, Sophie de Villemorin. Mmh. Et effectivement, c'est une invitation au voyage. Vous avez des objets d'art africain, vous avez des peintures qu'il a pu ramener de son dernier voyage en Haïti. Pour lequel il a été complètement ébloui. Et ce sont ces œuvres-là, ces œuvres intimes, et aussi toutes ces relations qu'il a pu avoir avec ses amis artistes, que nous proposons dans cette exposition chez Arcurial et qui seront vendus demain.
Alors quelque part dans cette exposition, j'ai relevé cette phrase, je ne sais pas où exactement elle est. Ce qui compte essentiellement pour moi, c'est l'art. Je suis en art comme on est en religion. On dit tout hein, en quelques mots là.
Exactement. Et on comprend André Malraux à travers aussi son écriture, à travers également son engagement pour les arts. Alors ça va se manifester de manière très tôt, hein, puisque André Malraux, dès les années 20, va déjà rencontrer Picasso, tous les artistes de Montparnasse. Et ça va se poursuivre après-guerre, puisque on connaît son engagement en tant que ministre de la Culture. Hein, c'est le premier ministre de la Culture.
On en parlait.
Le ministère de la Culture a été créé pour lui. Ouais. Et tout son engagement également pour également les dations en paiement, la création du musée Picasso, la préservation du patrimoine. tous ces engagements pour l'art, qui sont finalement très novateurs à cette époque-là, eh bien c'est cet héritage que nous avons là et que nous pouvons découvrir aussi dans cette exposition.
Mais oui, Stéphane Aubert, parce que vous l'avez bien intitulé, cette exposition et puis cette vente aux enchères, parce qu'on découvre l'homme un petit peu dans son intimité. Par exemple, on s'aperçoit qu'il dessinait énormément. Il y a des chats, lorsqu'il écrit à ses amis, il griffonne toujours quelques lignes d'un chat.
C'est une partie qui est assez méconnue, que le public va découvrir. C'est qu'effectivement, à tous ses proches, il faisait ce qu'il appelait des diables, avec un Y. C'est des petits dessins qu'il donnait en gage d'amitié ou quelquefois en gage d'amour, puisqu'on a plusieurs envois au début de certains ouvrages qu'il a donnés à Sophie Villemorin. C'était des petits croquis, alors qu'ils représentaient souvent des chats, parce qu'il avait une passion pour les chats, il était entouré de chats, et ses petits dessins sont très émouvants. Et on a découvert également, en préparant cette vente, trois croquis, trois esquisses de Picasso lui-même, qu'il avait griffonné, et il les avait mis à la poubelle, et Sophie de Villemorin va les prendre et va les faire encadrer, et il va les garder comme ça à Verrières le Buisson. Donc c'est assez amusant, ça parle aussi de cette relation entre André Malraux et Pablo Picasso, cette relation qu'ils auront toute leur vie. Quelquefois on parle de relation un peu manquée parce que leurs chemins se bifurqueront après la guerre quand André Malraux va rejoindre le général de Gaulle, mais on doit un ouvrage sublime, La Tête d'Obsidienne, dans lequel il retrace justement cette relation très forte et cette admiration qu'il avait pour Picasso, et c'est très émouvant.
Et on sent aussi sa passion pour l'art avec cette vente. Il y a beaucoup de braques, il y a beaucoup de dédicaces de tout ce qu'il faisait l'art à cette époque-là.
Oui, tous ces artistes avec lesquels il était finalement ami, on pense à Braque, eh bien on a des œuvres qu'il avait, qui l'entouraient dans son bureau, qui l'ont accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Braque et ils ont eu une amitié très forte. C'est André Malraux qui va faire peindre ce plafond dans la salle des Étrusques au Louvre, donc c'est extrêmement novateur, et il fait rentrer Georges Braque entre guillemets au Louvre. Il va faire peindre le plafond de l'Opéra de Paris à son ami Chagall. Marc Chagall. Il a des relations très fortes avec tous ces artistes. Il avait une culture immense.
Ça se sent.
Et c'est aussi pour ça qu'il avait probablement ce langage qui le rapprochait. Il avait un langage qui le rapprochait des artistes. Et c'est pour ça aussi probablement que le général de Gaulle avait aussi une très grande admiration pour André Malraux. On a des témoignages où le général de Gaulle admirait cette immense culture, et il se demandait comment il pouvait tout connaître dans tous les musées, sur toutes ces cultures et toutes ces civilisations
à travers le monde.
On vous a peut-être donné, à vous tous qui nous écoutez, envie de redécouvrir Malraux avec toutes ses facettes, le politique, l'ami des artistes, le dessinateur et l'amoureux des chats, par exemple.
Je précise aussi que si vous êtes à Paris, vous allez pouvoir aller voir ces objets de la vente aux enchères à la maison Arcurial. Ça, c'est jusqu'à 18h ce soir, et demain aura lieu la vente. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté aujourd'hui, Stéphane Aubert. Je rajoute qu'il y a son bureau aussi qui est à vendre.
Pour
ça que ça intéresse. Merci beaucoup. On l'a vu, grâce à vous, on a touché du doigt ce qui faisait aussi l'homme aujourd'hui. Merci, Stéphane Aubert.
Merci.
À bientôt. Belle vente à vous. À bientôt. Au revoir.
Une heure en France. Frédéric Le Tournier. Denis Farou. Sur France Bleu.
Nous avions pris un engagement en février dernier au Salon de l'Agriculture Porte de Versailles à Paris en recevant un producteur de fruits exotiques de la Martinique, le retrouver chez lui aux Antilles. Eh bien, c'est aujourd'hui.
Une heure en France, l'émission qui tient ses promesses.
C'est joliment dit.
Nous sommes à Grosmorne, dans le centre de la Martinique, où il n'est pas encore 8h du matin.
Et nous prenons des nouvelles de celui qui était l'animateur pour la Chambre d'Agriculture de la Martinique au Salon de l'Agriculture. Bonjour Renaud Bonnat.
Et bonjour tout le monde, bonjour de l'autre côté de la mer.
Alors dites-nous, faites-nous rêver là, on commence par un point météo, j'aime bien faire ça. Il fait quel temps en Martinique? Il est quelle heure? Où êtes-vous exactement?
Alors, exactement, il est 7h46.
Ouais.
Le point météo, on a un temps qui est couvert. Il pleut pas, mais il est nuageux. On est dans une période, en fait, qui est une période de transition entre la période de carême, on dit chez nous, la période sèche,
ouais,
où il fait chaud et sec, et une période, la période cyclonique où on va commencer à avoir les premières ondes tropicales. Donc ce sont des amas nuageux très chargés et qui lâchent beaucoup d'eau. Donc on est dans cette phase de transition et donc on a un temps pour vous rassurer. On a un temps mi-figue, mi-raisin. Il fait bon. Ceci dit, on reste sous les tropiques.
Oui, d'accord, quand même.
On a une température agréable. Des alizés qui sont perturbés et voilà un peu l'ambiance.
Ah, ben on y est avec vous.
Renaud, au Salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris, en février, vous nous aviez amené à porter des fruits exotiques, on les connaissait pas tous d'ailleurs. Quelle est votre principale activité sur l'île? Vous êtes producteur, éleveur également?
Voilà, alors je me définis comme étant un paysan, d'accord? Donc je produis du porc en plein air, du dachine. Alors le dachine, c'est un tubercule, c'est un bulbe plutôt, on le consomme comme légume féculent.
Mmh.
On va le retrouver en Asie où ils l'appellent taro, on le retrouve en Guadeloupe, ils l'appellent madère, enfin c'est l'équivalent, si vous voulez, de votre pomme de terre. Quand je dis l'équivalent, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser dans notre cuisine comme ça, d'accord. Je produis de la laitue, du giromon. Le giromon, c'est l'équivalent de votre potiron.
D'accord.
Ouais, c'est bien d'expliquer à chaque fois. Hein.
Oui.
Comment ?
C'est bien d'expliquer à chaque fois, parce que sinon on est perdu, vous avez raison.
Ouais, vous m'étonnez. Donc, ça me surprend pas, tiens. Et ensuite, là, il y a un projet de diversification dans un verger d'arbres fruitiers, avec un certain nombre d'essences, donc des agrumes, de l'orange, du citron, du pamplemousse, et puis aussi des fruits un peu plus exotiques, je veux dire ça comme ça, un peu plus rares, comme le ramboutan, qui est une variété de... Alors, c'est de la famille du lecci, quoi, en fait, avec des longs poils dessus. C'est un fruit qui vient d'Asie au départ. Donc voilà, donc l'idée, c'est de trouver des spéculations qui sont intéressantes et fortement valorisées.
Vous faites toujours de la confiture de, je ne sais pas comment on dit, mamay, qui est excellente, qui est un peu notre abricot à nous, non?
Exactement, donc on est en fin de saison et là, alors dans la diversification de mon activité, je reçois pas mal de groupes de visiteurs qui visitent la Martinique et qui passent chez moi découvrir un peu la culture et la tradition. Et justement, ces temps-ci, c'est la saison des abricots. Donc on appelle ça abricot pays ou mamé. Et là, c'est du jus de la confiture, c'est ce que je mange le matin. Enfin,
eh ben moi aussi, depuis que vous nous avez offert un pot de mamay,
ouais,
mamay comme vous dites, voilà, c'est excellent.
Mais le matin, c'est pas à la même heure. Renaud Bonnard, on a découvert aussi que vous aviez une passion pour la danse. Est-ce que vous voulez bien nous en parler de la danse?
Alors, en fait, faut savoir qu'en Martinique, nous avons une tradition, comme partout en France, dans toutes les régions de France, il y a une tradition, et l'une des vocations de mon boulot, c'est de faire justement vivre la tradition et de la préserver et de la développer. Et en Martinique, notre tradition s'appelle le belé. C'est la danse traditionnelle martiniquaise qui se joue avec il y a un tambour, un tibois, donc ce sont deux bâtons qui vont assurer la rythmique, des danses et des chants. Et je suis passionné de ça depuis, ça va faire maintenant près de 15 ans. Et depuis, sur l'exploitation, j'ai développé une activité de découverte justement de cette pratique et de cette culture. Aujourd'hui, le monde agricole est dans une telle situation et le paysan est en train de mourir, quoi, en fait. Quel que soit dans le monde, c'est compliqué d'être paysan. Et aujourd'hui, pour exister, nous avons à devoir préserver, valoriser notre production. L'un des moyens que j'ai trouvé, c'est justement de lier le terroir et la tradition. Parce que toute cette tradition va venir d'un certain nombre va nous laisser des ancêtres. Et ce sont les paysans qui vont créer cette danse, cette musique-là. Et donc, aujourd'hui, nous devons nous demander comment est-ce qu'on la préserve. Et voilà l'un des moyens que j'ai trouvé. Donc, sur l'exploitation, il y a un grand carbet que j'ai appelé l'Akoua. Et sous ce carbet, je fais vivre cette tradition, soit en organisant des événements, soit en accueillant des groupes, en transformant la production, en proposant de la nourriture, donc voilà.
Renaud, on sent votre amour pour la Martinique et on sent votre plaisir à le faire partager, cet amour, est-ce que je me trompe ?
Ah non, mais c'est l'une des, c'est ce que j'ai choisi de faire sur dans ma vie. C'est, je suis convaincu par ce que je suis. Par, en tant que Martiniquais, je considère que le monde a besoin de ma diversité. Donc, il est important pour moi de me définir et de m'ancrer dans, et de m'enraciner dans ma culture, dans ce que je suis de Martiniquais, et de le proposer au monde. Parce que toute tradition, tout savoir-faire, toute chose n'a qu'une vocation, c'est d'être partagée avec l'ensemble du monde. C'est bien parce que nous sommes différents que nous serons capables d'échanger pendant 4 heures de temps et même plus. Alors que si nous sommes pareils, ben, on n'a pas grand-chose à se dire, quoi, en fait. Et je crois que l'humanité est appuyée, justement, sur des échanges humains, sur des relations, et voilà. Donc,
c'est ce qu'on a fait aujourd'hui.
Ouais. Exact, mais c'est génial. Ouais. Voilà.
On a bien bu ce midi, on a bu vos paroles, je veux dire. vous revenez au Salon de l'agriculture l'année prochaine à Paris?
Ben, a priori, ouais, le boulot a été bien fait, donc ils m'ont pas encore rappelé, mais ça, y a pas de raison qu'ils me rappellent pas.
On se croisera à ce moment-là, alors Renaud. C'était un vrai plaisir de vous appeler. Vous nous avez offert un peu de Martinique aujourd'hui, ici en métropole, donc merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous, et puis vous parlez très très bien de votre île. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci, et n'hésitez pas à regarder de ce côté de la France, là aussi, c'est ce que j'insiste sur ça aussi, c'est que c'est un bout de la France, et c'est un endroit où on est français, et on a des savoir-faire, des cultures, et ce brassage culturel, ben c'est
ça, sa richesse.
La France.
Merci, donc, Renaud Bonnard.
Merci à vous.
À bientôt, bonne journée en Martinique. Au revoir.